poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Pénélope à Ulysse, Briseis à Achille, Phèdre à Hippolyte, Didon à Énée, Ariane à Thésée, aujourd'hui lettres et plaintes amoureuses dans la langue d'Ovide. Un extrait du Lamento della Ninfa de Monteverdi et de Nymphes et de Complaintes. Il va être question aujourd'hui de victimes de l'amour, de trahison, d'absence, d'attente, de sacrifice, de cœur et de poitrine transpercée. Daniel Robert, bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour.
Alors on vous doit, Daniel Robert, une fraîche et extraordinaire traduction de la Divine Comédie de Dante, parue aux éditions Actes Sud, mais on vous doit également une patiente et longue fréquentation d'Ovide, les Métamorphoses bien sûr, mais aussi ses lettres fictives, les Tristes, les Pontiques, lettres d'exil donc et lettres d'amour, comme ces Héroïdes qui paraissent aujourd'hui toujours chez Actes Sud dans la collection Babel. Ovide n'a pas 30 ans quand il entreprend ses lettres fictives. On est loin donc des Métamorphoses, on est encore un peu loin de l'exil. Qui est-il véritablement lorsqu'il les écrit? Est-ce que c'est encore l'Ovide léger, romain, mondain, Daniel Robert?
Oui, en quelque sorte. C'est un peu une étiquette qu'on lui a posée, mais qui ne correspond pas exactement au poète qu'il est. Bien sûr, lorsqu'il écrit les Héroïdes, les Amours, l'Art d'aimer, c'est un jeune homme de 27 ans. Il a ce côté un peu mondain, un peu léger. C'est un poète de cour, il faut bien le dire. Mais il y a déjà dans son écriture une profondeur, une réflexion sur la vie, sur les sentiments des êtres humains, qui ne cessera pas de mûrir avec lui, et qui déjà, on sent dans ses premiers écrits ce que plus tard il va donner à l'âge adulte, dans les Métamorphoses et puis bien sûr dans les Tristes et les Pontiques au moment où il sera en exil.
Alors ces Héroïdes-là justement dont on va parler, ce sont 15 lettres d'amante, épouse à l'être aimé, plus 6 autres, on y reviendra, dont l'authenticité n'est pas tout à fait avérée, mais au fond ça n'a pas tant d'importance. La lettre comme genre littéraire, qu'est-ce que c'est pour lui? C'est un jeu, c'est un exercice de style, c'est quelque chose comme une forme idéale du poème, c'est-à-dire une adresse?
C'est surtout une invention. Il dit très avec beaucoup de fermeté qu'il a créé ce genre.
Et il donne un nom même.
Oui. Il existait des lettres d'amour, bien sûr. Il existait des poèmes d'amour. Mais l'idée de faire un recueil englobant une série de lettres qui ont toutes pour but d'exprimer l'amour d'une femme pour un amant ou un mari, c'est lui qui l'a créé, et de faire ça en poème.
Voilà. Est-ce que ça voulait dire que pour lui, c'était aussi, parce qu'il s'agit quand même toujours avant tout d'écrire des poèmes, est-ce que c'est aussi une façon de varier les narrateurs, parce que c'est ce qu'il fera finalement dans les Métamorphoses plus tard?
Tout à fait, oui, tout à fait. On sent déjà ce besoin pour lui de faire une sorte de kaléidoscope, de jeu en regard et aussi de revenir inlassablement sur des thèmes qui lui sont chers.
Alors justement, à propos de ces thèmes qui lui sont chers, c'est à cause de ton retard, Ulysse, que ta Pénélope t'écrit ceci. Ainsi commence la première lettre, j'allais dire évidemment. Les Héroïdes, c'est aussi une sorte de hors champ alors de la mythologie en général, mais des vers d'Homère en particulier. Hein, il y a là Hélène, Pénélope, Briséis. Est-ce que c'est d'abord, est-ce qu'il faut d'abord considérer ces lettres comme au fond un dialogue entre Ovide et Homère?
Oui, certainement. Il faut se rappeler que lorsqu'il a terminé ses études classiques, comme tout jeune noble les faisait, il a passé un an à Athènes, comme tous les jeunes gens le faisaient lorsqu'ils étaient de ce rang-là. Et donc, il a acquis une très très profonde connaissance de la langue grecque, de la culture grecque et bien sûr de la mythologie. Il a ramené tout ça à Rome et c'est à partir de là qu'il a conçu son œuvre.
Est-ce que, parce qu'on sent ça en lisant, alors pour nous, vu de très très loin, parfois on a besoin de réviser un petit peu notre Homère en lisant ses lettres, hein, mais j'imagine qu'à l'époque, elles sous-entendent que tout le monde connaît ces histoires, en tout cas ce qui lie les épistoliers, ce qui lie Hypsipylée à Jason, Canacée à son frère Macaré, Phèdre à Hippolyte. À ce moment-là, au moment où Ovide les écrit, nul n'ignore ces histoires-là.
Oui, enfin, dans le monde littéraire et artistique de Rome, parce que bien sûr, l'immense majorité du peuple romain et du peuple italien n'a pas accès à la culture, ne sait même pas lire. Mais dans le monde où Ovide évolue, bien sûr, tout le monde connaît toutes ces légendes, toutes ces histoires.
Alors je pense par exemple, hein, il y en a beaucoup, on va pas toutes les citer, hein, mais je pense par exemple à la lettre de Phyllis à Démophon qui écrit, alors ça c'est à la toute fin du poème, souvent j'éprouve la soif du poison, souvent je souhaite périr d'une mort sanglante, transpercée par un glaive, et ce cou qui s'est offert à tes bras déloyaux pour qu'ils l'étreignent, je souhaite le serrer par un nœud coulant. Vous parlez de monologue tragique, Daniel Robert, et c'est peu dire qu'il y ait vraiment moins question d'amour heureux que de séparation, d'attente, d'abandon, de solitude, de trahison, de mort imminente. Les héroïnes, globalement, comptent les jours, elles supplient, elles menacent aussi un peu, elles se révoltent, mais elles sont globalement outragées, flouées. Écrire du point de vue de la femme, sans vouloir faire d'interprétation anachronique, évidemment, qu'est-ce que ça signifie pour Ovide, hein, pour l'époque, pour le poème?
Ovide est très intéressé par la psychologie féminine, en fait. On retrouvera ça à l'époque classique française avec Racine. Il est très, très attentif à essayer de ressentir ce qu'une femme peut ressentir dans l'amour, dans la haine, dans la jalousie, alors qu'il est un homme. Et c'est quelque chose qui pour lui est capital. Et c'est en cela qu'il se sépare de poètes comme Virgile, qui est un poète quand même de l'épopée, des exploits militaires, souvent guerriers. Et Ovide, lui, choisit délibérément l'amour. Et évidemment, pour parler d'amour, il faut qu'il essaie de se mettre à la place des femmes, parce qu'il ne peut pas parler d'amour uniquement à la place d'un homme. Alors, il le fera dans les amours, dans l'art d'aimer. Il consacrera toute une partie de conseils aux garçons pour séduire les femmes, et ensuite une autre partie qui sera au contraire les conseils donnés à des jeunes femmes pour séduire les garçons. Il a toujours ce jeu entre l'homme et la femme.
Ça serait quelle idée de l'amour au fond? C'est-à-dire qu'il y a quand même un invariant, on a l'impression, même jusqu'à la fin, hein, l'idée que l'amour engage l'être jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort. Alors ça peut être la mort de l'amant que l'on tue ou à qui on fait subir tout le mal qu'on leur peut, ou ça peut être aussi sa propre mort. Hein, des personnages comme Didon, par exemple, va se tuer par amour pour Énée, puisqu'elle est abandonnée, elle sait qu'il va partir, elle lui a offert la ville de Carthage, elle lui a offert un royaume, et lui part, non pas pour une autre femme, mais parce que les dieux lui ont intimé l'ordre d'aller fonder une nouvelle ville. Et puis il y a Ariane qui est toute seule aussi, abandonnée par Thésée sur l'île de Naxos, et qui sait que elle est trahie par Thésée, puisque lui, c'est avec Phèdre qu'il va repartir. Un très grand nombre de ces femmes sont effectivement flouées, trahies, et, ou alors se sentent face à quelqu'un qui est indifférent à elles, alors qu'il lui a, il leur a promis l'amour éternel.
Voilà. Mais une collection de trahisons, somme toute.
Voilà. Oui. Voilà. Mais il y a aussi des amours partagés.
Alors oui, parce que voilà. Évidemment, il y a forcément des exceptions, sinon c'est pas drôle. Je pense par exemple à la lettre de Sappho. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un extrait, Daniel Robert?
Oui, oui. Bon, on sait que Sappho est la seule de toutes ces épistolières à ne pas être un personnage mythologique. Elle a existé. Mmh. Elle est poétesse. Et la lettre que Ovide lui consacre s'adresse à un garçon, à un homme d'une extrême beauté, ce qui est assez surprenant, puisque Sappho, comme on le sait, préférait les filles, les jeunes femmes. Et là, elle a été totalement emportée par la beauté de Phaon, et elle lui déclare sa flamme sans aucune pudeur et sans aucune retenue, comme c'était de mise à l'époque, parce que elle a d'abord sa position de poétesse, et puis c'est une femme déjà aguerrie, si on peut dire, à l'amour. Je vais vous lire juste le début. Est-ce qu'au vu de cette lettre écrite d'une main passionnée, tes yeux ont reconnu aussitôt qu'il s'agissait de la mienne? Si tu n'avais pas lu le nom de son auteur, Sappho, ne saurais-tu d'où vient cette œuvre brève? Peut-être vas-tu te demander pourquoi mes vers sont alternés alors que je suis plus portée vers les maîtres lyriques. Mon amour doit se dire en pleurant. Élégie, poème des pleurs. Nul autre chant ne s'accorde à mes larmes. Je me consume comme brûle sous les flammes attisées par l'indomptable Russe un champ fertile aux récoltes incendiées. Phaon fréquente les plaines lointaines de l'Etna, de Typhée. Moi, l'ardeur qui m'habite n'est pas moindre que le feu de l'Etna. Et les vers que je pourrais unir à l'harmonie des cordes ne me viennent pas. Le poème a besoin que l'on ait l'esprit libre. Ni les femmes de Pyrrha, ni celles de Métimne, ni aucune des autres lesbiennes ne me charment. Sans intérêt pour moi et Anactorié, sans intérêt l'éblouissante Sidro. Attis n'est plus comme jadis agréable à mes yeux, et sans autre que j'ai été, certes, coupable d'aimer. Cruel, tu possèdes à toi seul ce qui a appartenu à tant de femmes. Ta beauté, ta jeunesse sont faits pour les jeux d'amour. Ô beauté traîtresse pour mes yeux. Prends une lyre et un carquois, tu deviendras Apollon en personne. Que des cornes te poussent sur le front et tu seras Bacchus. Si la nature capricieuse m'a refusé la beauté, je pallie ce défaut de beauté par mon talent. Je suis petite, mais j'ai un nom qui peut emplir toute la terre. Je dois ma stature à ma seule réputation. Si je n'ai pas la peau claire, la fille de Céphée, Andromède, qui plut à Persée, avait le teint basané de son pays. Et les blanches colombes s'unissent souvent à d'autres bigarrées. Et la tourterelle noire est aimée par un oiseau vert. Si tu ne veux pas d'autre femme que celle dont la beauté te paraîtra digne de toi, tu n'auras pas de femme, pas de femme. Lorsque tu lisais mes poèmes, je te paraissais même belle. Tu jurais que j'étais la seule à pouvoir parler sans fin. Je chantais, je m'en souviens, les amantes se souviennent de tout. Pendant que je chantais, tu me volais les baisers. Tu en étais même enchantée, et je te plaisais en tout point, mais bien plus encore au moment de l'acte d'amour.
Merci. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Non, excusez-moi. Ce n'est pas... plus cru, plus libre, Sappho, évidemment, comme une voix dissonante hein, dans ce corpus de lettres fictives, Daniel Robert, comment est-ce que vous l'interprétez? À quoi lui sert, au fond, Sappho? Qu'est-ce qu'elle vient dire d'autre pour Ovide?
D'abord, c'est la parole d'une poétesse, et donc il tient à faire parler une femme poète comme lui le fait. avec toutes les lettres qu'il écrit. Mais ce faisant, c'est quand même lui qui met sous la plume de Sappho les mots qu'elle adresse à Phaon. Et je pense qu'il y a chez lui ce plaisir d'échanger un peu sa personnalité de poète homme pour une femme poète.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et toujours sur France Culture, aujourd'hui à la technique Jacques Azubert, à la réalisation Vivian Lecuivre, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, et avec nous Daniel Robert, dont la traduction des Héroïdes d'Ovide paraît aux éditions Actes Sud, dans la collection Babel, de Pénélope à Sidype, en passant par Médée, Ariane, ou l'art de la plainte amoureuse.